Bonjour. Marie à l'Annonciation et la Visitation, c'est un sujet qui tombe bien juste la veille de l'ouverture de l'année jubilaire de la Miséricorde, puisque la Vierge Marie est peut-être l'icône la plus représentative d'une personne qui a été totalement ressaisie par la miséricorde de Dieu, totalement miséricordiée. Jusque dans cette préservation du péché originel que nous allons célébrer demain à travers l'Immaculée Conception. Marie a été rachetée, disent les théologiens, de meilleure manière que nous par la préservation de l'emprise du péché d'origine, alors que nous sommes rachetés par le sacrement du baptême, qui est, si vous voulez, une grâce qui vient toucher une nature blessée. Marie, elle, bénéficie d'une nature totalement sanctifiée dès le point de départ de sa vie. Mais elle le doit à la miséricorde du Père, elle le doit à la croix de Jésus. Et d'une certaine façon, si on voulait parler en termes de coût, elle a plus coûté à Jésus que chacun de nous, puisque la grâce qu'elle a reçue est encore plus grande. Bon, c'est une façon de réfléchir qui est peut-être pas très adaptée. Mais pour vous faire comprendre, quoi, que la grâce de l'Immaculée Conception vient aussi de la croix de Jésus. Et donc, lorsque Marie était au pied de la croix, elle contemplait l'acte par lequel elle avait reçu cette sainteté originelle qui est la sienne, ce qui n'est pas rien. Le texte que vous avez sous les yeux, c'est peut-être un texte un peu compliqué, donc vous vous en servez ou vous ne vous en servez pas. Pour votre prière personnelle, tout à l'heure, en toute dernière page, vous avez dans un cadre un certain nombre de pistes. En toute dernière page, la page 8, vous avez un cadre avec quelques pistes de réflexion qui pourront vous servir pour votre prière personnelle, pour cheminer intérieurement, chacune à votre rythme et puis selon ce que le Seigneur vous proposera. Voilà, nous allons regarder donc ces deux récits dans Saint Luc, l'Annonciation et la Visitation, deux textes qui s'articulent l'un sur l'autre. Et je me suis inspiré pour la page 1, le tableau que vous avez sous les yeux à la page 1, je me suis inspiré de ce livre qui s'appelle « Marie dans le mystère de l'Alliance » du père Ignace de la Poterie, qui est un jésuite qui a été longuement professeur à l'Institut biblique pontifical de Rome, c'est un bibliste. Et donc sur le petit tableau que vous avez sous les yeux, qui peut paraître compliqué, cependant ça permet de bien repérer dans le récit de l'Annonciation plusieurs choses qui sont intéressantes. Par exemple, le fait que la salutation de l'ange au tout début, « Réjouis-toi, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi », cette salutation comporte deux parties. La première, « Réjouis-toi, comblé de grâce ». La seconde, « Le Seigneur est avec toi ». Et que ces deux parties sont ensuite monnayées dans la suite. Ce sont les deux parties que vous avez en dessous, A' et B'. Tu as trouvé grâce auprès de Dieu, donc c'est toute une partie qui porte sur la grâce. Et puis, plus bas, une autre partie qui porte sur la question « Le Seigneur est avec toi, l'Esprit Saint viendra sur toi ». Donc la salutation de l'ange qui bouleverse Marie est ensuite déployée progressivement en deux parties, l'une sur la grâce, l'autre sur la présence de Dieu dans sa mission tout à fait particulière de mère de Dieu. Et puis on peut repérer encore autre chose, c'est que Marie nous offre un silence, puis une première parole, puis une seconde parole. Marie nous offre un silence qui est celui de son bouleversement. À cette parole, elle fut toute bouleversée. Donc on pressent déjà ce que Luc écrira. Elle méditait tout cela dans son cœur. Ensuite, une première parole qui est une parole de questionnement. Comment cela se fera-t-il? Où elle demande plus de lumière. Ce n'est pas inutile et ce n'est pas malvenu que de s'adresser à Dieu pour lui demander plus de lumière sur ce qu'il nous demande. Et puis, une deuxième parole où elle donne sa réponse. Voici la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. Et puis, à nouveau, un silence, d'une certaine façon, puisqu'il est dit, l'ange la quitta. C'est très important, hein. Marie n'est pas restée scotchée sur l'ange Gabriel pendant toute sa vie, avec des visions particulières. Mais l'ange la quitta, voilà, c'est fini. Il est venu, il a délivré son message, il a obtenu la réponse, il va la porter. L'ange la quitta. J'insiste toujours pour attirer l'attention des gens sur ce verset, parce qu'il y a tellement de gens qui sont à la recherche de révélations particulières dans les apparitions mariales reconnues, ou moins reconnues, ou pas du tout reconnues, qu'il est important de voir que dans le récit de l'Annonciation, il y a ce petit verset, « L'ange la quitta, il avait déjà tout dit. » Voilà. Donc ce petit tableau vous permet de voir les grandes articulations du récit de l'Annonciation pour une petite étude peut-être. On va regarder page 2, un premier thème, c'est celui de la joie. La joie de Marie, la joie de Dieu. Donc l'ange Gabriel l'accoste en lui disant « Réjouis-toi, comblé de grâce ». Ce mot « kairé » en grec. Qui est une salutation, ça peut être un simple salut, soit salué, mais il est probable que la bonne traduction en français, ce soit « réjouis-toi ». Pourquoi ? Parce que, en fait, ça a beaucoup d'écho dans l'Ancien Testament, par rapport à de nombreuses prophéties de l'Ancien Testament, où les prophètes s'adressent à une femme qui est nommée la fille de Sion, et qui représente, qui symbolise le peuple de Dieu, et les prophètes s'adressent à elle en disant réjouis-toi, réjouis-toi. Regardez la première lecture de la messe d'hier, hein, réjouis-toi Jérusalem. On s'est beaucoup amusé hier à la messe, on avait une messe des familles et on a fait mimer ça par les enfants, quitte ta robe de tristesse. Donc il y en avait un qui était revêtu d'oripeaux, on lui enlevait ses oripeaux, revêt la robe de la gloire de Dieu maintenant. Et le diadème de l'Éternel, enfin bref, ça a eu énormément de succès, ils se sont fait applaudir deux fois. Mais c'est plein de textes de l'Ancien Testament ainsi où on interpelle le peuple de Dieu symbolisé sous l'aspect de la fille de Sion pour lui demander de se réjouir de ce que Dieu va accomplir. Ainsi, dans le prophète Sophonie, le petit texte que vous avez en italique, pousse des cris de joie, fille de Sion. Une clameur d'allégresse, Israël, réjouis-toi, triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. Yahvé a levé la sentence qui pesait sur toi, il a détourné ton ennemi, Yahvé est roi d'Israël au milieu de toi, tu n'as plus à craindre le malheur. Il faut savoir quand même que les pères de l'Église, les premiers évêques, notamment les pères grecs, et aussi dans la liturgie byzantine, ont interprété les paroles de l'ange dans ce sens d'une invitation à la joie. Réjouis-toi, comblé de grâce. Invitation à la joie. On comprend peut-être que, alors que Marie soit bouleversée par cette salutation, parce que par derrière, si vous voulez, il y a tout le contexte de l'Ancien Testament qu'elle n'est pas sans connaître, évidemment. Donc elle perçoit bien ce qui est dit et la résonance que ça peut avoir. Quant à la réponse qu'elle va faire à l'ange Gabriel, qui est traduite en français un peu platement, sans émotion, qu'il m'advienne selon ta je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. Le père Gilbert, dans un livre dont je me souviens plus le titre, traduit de façon plus émotionnelle peut-être, oh, qu'il en soit pour moi selon ta parole, avec désir. Marie n'a pas donné sa réponse contrainte et forcée, comme si on lui imposait une feuille de route qu'elle n'avait pas demandée. Mais il me semble qu'effectivement, ça peut être juste de traduire cette réponse, de ce fiat de Marie, qui n'est pas le même que le fiat de Gethsémani, évidemment, hein, « Père, non pas ma volonté, mais la tienne », qui n'est pas le même non plus que le fiat du Notre Père, « Que ta volonté soit faite ». Chaque fiat a sa spécificité, sa tonalité particulière, et on voit bien que dans le fiat de Marie, ici à l'Annonciation, et le père de la poterie le souligne aussi, c'est la joie de l'abandon total au bon vouloir de Dieu. Marie répond avec joie. « Oh, qu'il en soit pour moi selon ta parole. » Voilà, donc il y a un premier thème qui traverse ce récit de l'Annonciation, qui est celui de la joie, qui habite Marie par le don de Dieu qui lui a été fait, de la joie qu'elle restitue à Dieu à travers sa réponse, son adhésion qui vient de son cœur, et pas seulement d'une signature qu'elle mettrait sur un chèque en blanc, qui vient de son cœur. Voilà. Une deuxième petit point sur lequel on peut méditer, c'est le thème de la grâce, puisque lorsque l'ange la salue, il lui dit « Réjouis-toi, comblé de grâce ». Le pape Jean-Paul II, dans la lettre « Marie, mère du Rédempteur », qui date de 1987, le pape Jean-Paul II disait « C'est l'autre nom de Marie, comblé de grâce, l'autre nom ». Et le terme grec, kekaritomenes, c'est un participe parfait, passif, qui indique quelque chose qui a été fait en elle et qui demeure, et qui a été accompli par Dieu. Non pas, comme traduisent certaines Bibles protestantes, toi à qui une grâce a été faite. Ça, c'est encore un peu c'est très réducteur. Mais toi qui a été comblé de grâce et qui le demeure et sur qui la grâce de Dieu repose et agit sans cesse, qui est transformé par la grâce. On pourrait trouver un verset de la lettre aux Éphésiens, chapitre 1, verset 6, où il est dit aussi que les chrétiens sont transformés par la grâce, sanctifiés par la grâce de Dieu, et c'est le même verbe grec qui est utilisé, le verbe charitoun, dans les deux cas, et qui indique l'action de la grâce de Dieu qui opère un changement profond dans la personne. Donc Marie est vraiment saisie totalement par la grâce de Dieu. Elle a été préparée depuis longtemps par l'action du Saint-Esprit pour cette maternité divine qui lui est demandée. Et cette maternité divine, c'est vraiment le fruit de la grâce de Dieu. C'est son charisme particulier à Marie, sa mission spécifique. Un charisme est donné pour une mission. Et la mission de Marie, c'est la maternité divine, et elle en a le charisme. Elle seule. Mais en ce sens, elle est aussi, l'Église est aussi dans le sillage de Marie et a ce charisme de maternité, d'engendrement. Un troisième thème, je propose dans ce récit de l'Annonciation, c'est le thème de la puissance de l'Esprit Saint. Donc je vous rappelle que à la page 1, dans le tableau, vous avez donc une annonce de l'ange qui est en deux parties. Réjouis-toi, comblé de grâce, première partie. Et puis, le Seigneur est avec toi, deuxième partie. Alors si on regarde la première partie de l'annonce de l'ange, elle se déploie ensuite à travers l'annonce de l'enfantement. Tu vas concevoir et enfanter un fils. Il sera appelé fils du Très-Haut. La manière ensuite dont cela va s'accomplir, c'est dans la deuxième partie. Mais voilà, dans la première annonce de l'ange, il y a l'annonce de la maternité divine de Marie qui est faite. Et on peut s'apercevoir que dans ce dialogue qui est entre Marie et l'ange, la réponse de Marie qui pose une question comporte le mot « puisque je suis vierge ». Voilà, ça se termine sur ce mot qui a été mis par le père de la poterie en majuscule. puisque je suis vierge, mariée dans l'état de virginité, et pourtant elle est mariée. Alors c'est une chose que beaucoup de gens trouvent complexe. Mais on peut se dire d'abord que Marie est la dernière d'une lignée de femmes qui sont marquées par la stérilité ou par une situation d'humiliation due à la stérilité dans l'Ancien Testament. Quand vous regardez la liste, par exemple, vous l'avez au deuxième paragraphe, Sarah, Genèse chapitre 18, Rebecca, Genèse chapitre 25, Rachel, Genèse 29 et 30, la mère de Samson, Juges chapitre 13, Anne, la mère du prophète Samuel, premier livre de Samuel, chapitre 1, le cas de femmes qui sont bénies par Dieu pour leur avoir une maternité, car elles sont stériles. Et Marie s'articule d'une certaine façon sur Élisabeth, qui est la dernière de la série. Élisabeth, la stérile, qui est dans sa vieillesse bénie par une naissance. Et Marie, la Vierge, qui enfante par la puissance de l'Esprit-Saint. C'est intéressant d'observer cette série et de voir que la maternité virginale de Marie est le terme d'une longue préparation au cours de toute l'histoire du salut. Dieu agit beaucoup à travers le temps. Il laisse le temps au temps, comme disait un homme célèbre. Il laisse le temps mûrir. Et il n'y a jamais aucune précipitation. Et à travers les signes qui sont donnés dans l'Ancien Testament, déjà, c'est la maternité divine de Marie qui est prophétisée, qui est annoncée. Et qui va un jour du temps, être ensuite dévoilée. La maternité est un don spécial de Dieu pour ces femmes et pour Marie. Comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge? Je vous invite à lire le texte du père Guardini que j'ai mis sous ce titre, un théologien italien qui a préparé un peu le Concile Vatican II. Son livre « La mère du Seigneur » date de 1961, c'est pas très récent. Mais je trouve que ce paragraphe résume bien, au fond, une réflexion pour essayer de tout tenir ensemble. Marie a conclu ses fiançailles et n'a pu les envisager autrement que comme une démarche qui la conduirait au mariage, au sens complet du mot. Cependant, elle ne pouvait se comprendre elle-même en une telle situation. Car l'orientation la plus profonde de sa vie y contredisait. Lui eût-on demandé quel tour devait donc prendre les choses, elle lui répondu qu'elle n'en savait rien. Elle savait et ne savait pas. Situation qu'elle eût été incapable de définir, attente qu'elle n'eût pu justifier. Marie s'est fiancée, ou plutôt elle a donné son accord aux fiançailles que lui proposait son tuteur, mais en même temps une conviction intime lui disait que les choses suivraient un cours à part. Dans un état où tout à la fois elle sait et ne sait pas, dans cette attente qu'elle ne peut définir, elle vit pour Dieu dans la confiance. C'est l'attitude déjà notée que j'appellerai proprement mariale. La persévérance devant l'incompréhensible par recours à Dieu. La persévérance devant l'incompréhensible par recours à Dieu. Très important, ceci. On a une clé ici pour une spiritualité mariale qui est essentielle. Quand enfin l'ange apportera son message, Marie doit devenir mère par la puissance de l'Esprit de Dieu. Son âme profonde dira « C'était donc cela. C'était donc cela. » Donc vous voyez, ici on a un petit peu la mise ensemble des deux aspects qui nous semblent contradictoires. Bien que mariée, Marie vit existentiellement une aspiration à la virginité, si bien qu'en quelque sorte la perspective de la maternité la surprend. Après la difficulté posée par Marie, comment cela se fera-t-il ? Puisque je suis vierge, vient au verset 35 la réponse de l'ange, qui s'avère en même temps une confirmation de toute la perspective de sa vie, ce sera une maternité virginale. Et l'ange dit, l'Esprit Saint viendra sur toi, une parole qui fait allusion à la nuée qui reposait sur la tente de la... Il faudra qu'on leur dise de mettre de l'huile. Sur la tente de la rencontre, vous savez, dans l'Ancien Testament, dans l'Exode, quand le peuple de Dieu se déplaçait, il y avait la nuée au-dessus de la tente de la rencontre, la nuit sous la forme de feu, et c'était comme la Shekhinah, l'ombre de Dieu, la présence de Dieu qui était là avec le peuple. Et l'ange dit à Marie, l'Esprit Saint viendra sur toi et le Très-Haut te prendra sous son ombre. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Marie est la tente de la rencontre, que Marie est l'arche d'alliance. Dans la tente de la rencontre, il y avait l'arche d'alliance qui contenait les deux tables de la loi. Et c'est là que se tenait Moïse, c'est là que se tenait son secrétaire Josué, son adjoint Josué. Et c'est cela qui nous est suggéré par cette image de l'ombre de Dieu qui repose sur Marie, sous la forme de l'Esprit Saint. Et on va voir que Saint Luc exploite ce thème ensuite dans le récit de la Visitation, en allant chercher un parallèle avec le premier livre de Samuel sur l'arche qui remonte vers Jérusalem. Mais pour l'instant, c'est à travers le don du Saint-Esprit qui repose sur Marie, à travers cette expérience qu'elle fait de concevoir et qui ne nous est pas autrement représentée qu'à travers cette allusion pour laquelle il faut avoir l'ouïe fine, évidemment, parce qu'il faut connaître un peu les passages de l'Ancien Testament où ça fait entrer, où ça fait illusion. Il faut connaître ces passages de l'Ancien Testament pour percevoir l'écho que donne Saint Luc, parce qu'au fond, l'expérience intime que fait Marie de cette conception par la puissance du Saint-Esprit ne nous est pas rapportée dans le texte de Saint Luc de façon particulière. Ça se passe dans le silence, dans le secret. La deuxième partie, toujours on regarde notre cadre, la deuxième partie de la salutation de l'ange Gabriel, le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Et ça, il va le déployer ensuite à travers le don du Saint-Esprit. L'Esprit Saint viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. L'enfant qui naîtra sera saint, sera appelé fils de Dieu. Et puis il lui donne le signe de sa cousine Élisabeth qui a conçu elle aussi un fils, elle qu'on appelait stérile. Et le mot stérile ici termine cette partie, comme le mot « vierge » terminait la première partie. Le Seigneur est avec toi. Ça, c'est pas neutre non plus. Dans la Bible, cette formule est comme une salutation qui indique un secours spécial dans une mission que Dieu confie. Il faudrait que vous puissiez parcourir un certain nombre de textes. Je vous en ai mis quelques-uns, par exemple, lorsque Moïse apprend qu'il devra conduire son peuple hors d'Égypte, Exode 3:12, au buisson ardent, le Seigneur lui dit qu'il sera avec lui. Quand Josué reçoit mission de traverser le Jourdain avec les Israélites, Josué 1:9, quand l'ange vient annoncer à Gédéon qu'il devrait délivrer son peuple de la main des Madianites, Yahvé est avec toi, vaillant guerrier, Juge 6:12. Vous savez, Gédéon, qui était un peu scrupuleux, il disait à Dieu, « Ah ben je veux bien, mais enfin, il va falloir que tu me donnes un signe parlant. Donc écoute, si demain matin, il y a de la rosée partout, sauf sur cette toison que je mets, d'accord. » Puis le lendemain, il y a de la rosée partout, sauf là. Il dit, « Ah ben oui, alors. » Mais quand même, il est un peu scrupuleux, donc il dit à Dieu, « Si après-demain, il y a de la rosée uniquement sur la toison, mais pas ailleurs, je veux bien... » Ce sera vraiment le signe qu'il n'arrête pas de demander des signes supplémentaires. Mais le Seigneur lui avait dit, le Seigneur est, Yahvé est avec toi, vaillant guerrier. Et cette formule dans l'Ancien Testament indique un secours particulier de Dieu pour notre mission. L'Esprit Saint viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Alors c'est intéressant de voir que la liturgie a repris cette formule de l'Ancien Testament pour nous la donner en ouverture de la célébration. Le Seigneur soit avec vous. Ça veut dire que dans la célébration qu'on va vivre, vraiment, le Seigneur va nous donner la grâce pour notre mission de baptiser pour la semaine qui vient. Et le prêtre le souhaite à l'Assemblée qui lui répond, et avec votre esprit, avec vous aussi, vraiment le Seigneur se donne dans cette célébration. Voilà quelques pistes donc sur ce récit de l'Annonciation. Une piste sur la joie, qui revient avec la lettre du pape François. Une piste sur la grâce de Dieu, une piste aussi sur la puissance de l'Esprit-Saint, et une piste sur ce secours de Dieu par la puissance du Saint-Esprit qui nous est donné. En résumé, page 4, qui est Marie dans ce récit de l'Annonciation? Alors Marie est la fille de Sion, puisque la salutation de l'ange Gabriel, « Réjouis-toi, comblé de grâce », fait vraiment résonner les nombreux passages de l'Ancien Testament où les prophètes invitaient la Sion eschatologique à se réjouir du salut que Dieu allait lui accorder. Marie est l'Immaculée, comblée de grâce. Il y a beaucoup de gens qui disent quoi, le dogme de l'Immaculée Conception, 1854, n'a pas beaucoup de fondement biblique. Mais si, le fondement biblique, il est là, dans ce mot, comblée de grâce. Marie est totalement graciée, transformée par l'Esprit Saint, et la tradition de l'Église voit dans ce mot le fondement biblique scripturaire du dogme de l'Immaculée Conception. Troisièmement, Marie est vierge, au sens où elle a vraiment, le pape Jean-Paul II, dans sa lettre de 1987, dit que, au fond, elle avait dans son cœur le désir de réserver à Dieu seul le don total de sa personne. C'était quelque chose que l'Esprit Saint avait fait mûrir en elle, le désir de réserver à Dieu seul le don total de sa personne. Alors évidemment, avec l'histoire du mariage avec Joseph, c'est coton. Et précisément, Dieu va trouver la manière de pouvoir relier les deux. Quatrièmement, Marie est nouvelle arche d'alliance. Et on va développer ce thème maintenant dans le récit de la Visitation. Nouvelle arche d'alliance, la façon dont le Père couvre Marie de son ombre et de son Esprit Saint dans le mystère de l'Incarnation est mis en correspondance avec l'habitation de la gloire divine dans le Temple, la nuée lors de la Transfiguration, le don de l'Esprit Saint à la Pentecôte. Tout cela désigne fortement Marie comme nouvelle arche d'alliance. Et puis, Marie est mère de Dieu, maternité divine, qui est annoncée clairement par l'ange Gabriel. Mais vous pourrez trouver encore d'autres richesses dans ce récit de l'Annonciation en le méditant personnellement. Et je vous invite maintenant à prendre la deuxième partie de notre réflexion. Marie en visitation. Bon, de toute façon, ce sont des textes que vous connaissez, c'est la suite. L'ange la quitta, verset 38, et puis verset 39. En ces jours-là, Marie partit et se rendit en hâte vers la région montagneuse dans une ville de Juda. Elle entra chez Zacharie, salua Élisabeth, et il advint, dès qu'Élisabeth eut entendu la salutation de Marie, que l'enfant tressaillit dans son sein, et Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Alors elle poussa un grand cri et dit « Béni es-tu entre les femmes, béni le fruit de ton sein. Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur? Car vois-tu, dès l'instant où ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein. Oui, bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement, ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. » Là, je vais emprunter cette réflexion maintenant au Père Laurentin dans son livre les évangiles de l'enfance du Christ. Et il nous fait découvrir quelque chose de très très intéressant, c'est que ce récit de la visitation, qui est écrit par Luc, est tissé d'allusions au transfert de l'Arche d'Alliance à Jérusalem par le roi David. Et ce récit, vous l'avez dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 6. Il faudra un jour que vous preniez le temps d'aller le regarder à tête reposée. Mais je vous l'ai mis en parallèle en deux colonnes qui montrent bien les points de contact littéraires qui sont très très intéressants. Donc vous savez que l'Arche qui avait été établie par Moïse, en Exode chapitre 40, qui était entré en Canaan avec Josué. L'arche était longtemps restée à Silo, au nord de Bethel, où un temple avait été construit. Elle avait été prise comme trophée de guerre par les Philistins, puis reprise par David, qui l'avait ramenée à Silo. Silo s'est situé en Samarie, donc entre la Galilée au nord, la Judée au sud. Et donc, David va aller... À un moment, on va être pris d'un scrupule, lui aussi, après avoir eu le désir de construire un temple pour Dieu, va aller chercher l'Arche d'Alliance et l'amener à Jérusalem. Jérusalem, 800 mètres d'altitude. Jérusalem, donc, de quelques points qu'on parte, on monte. Et ramenant l'Arche d'Alliance depuis la Samarie, il va monter vers Jérusalem avec l'Arche d'Alliance. Et devant l'Arche d'Alliance, David va danser, il va se dévêtir, se mettre en pain, il va danser. Et quand il entrera à Jérusalem dans cet accoutrement, sa femme, qui est la fille de Saül, le roi précédent, la regardera d'un œil de travers et lui reprochera de s'être mis dans cette tenue. Et David dira, qu'y a-t-il de plus beau pour Dieu que de danser devant lui et de chanter ses louanges? Bon. Voilà, il faut connaître ce passage de l'Ancien Testament pour bien goûter le récit de la visitation. Alors regardez, les deux récits commencent de manière analogue. David se leva et partit pour Baal de Juda pour en faire monter l'Arche de Dieu. Et dans Saint-Luc, vous lisez, Marie se leva en ses jours et partit dans la montagne vers une ville de Juda. Donc vous avez la même disposition, au fond. David se lève, Marie se lève, il part, elle part, tous les deux montent. Marie, elle, va aller de Nazareth à chez sa cousine Aïn Karem, qui est dans les faubourgs de Jérusalem. Il y a 9 kilomètres entre la ville et puis Aïn Karem. Mais là encore, elle va de Nazareth, elle va descendre, puis remonter. Dans cette même région de Juda, au fond. Hein. Il y a des contacts topographiques, terminologiques entre les deux récits qui montrent que Luc assimile la montée de Marie portant Jésus, l'héritier de David, comme il est dit dans le récit de l'Annonciation, dans cette même région de colline, il l'assimile avec la montée de l'Arche qui avait été accomplie par David. L'expression « en ces jours-là » qui marque l'étape de l'Arche d'Alliance dans la maison d'Obed-Edom, puisque cette montée s'est faite en deux étapes, je crois. À un moment, il y a eu un accident, il y a deux personnes qui portaient l'Arche, qui ont posé la main dessus, et puis ils ont été foudroyés. Alors David s'est dit « ah, ça craint !» Et donc il a fait une étape chez Obed-Edom, et il y a laissé l'Arche, et puis Obed-Edom a vu que l'Arche permettait de multiplier ses richesses. Il s'est trouvé béni par Dieu de toute façon. Alors David s'est dit, il est allé rechercher l'Arche pour terminer la montée vers Jérusalem. L'expression « en ces jours-là » n'est pas neutre, ça fait aussi un écho. Et puis, la suite, lorsque Élisabeth va dire « D'où m'échoit-il que la mère de mon Seigneur vienne chez moi ?» Et ça reprend typiquement le cri de David dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 6. « Comment m'échoit-il que l'arche du Seigneur entre chez moi ?» Donc voilà, je voulais vous faire souligner cet aspect qui demande une petite étude biblique pour bien s'en apercevoir, que Marie est vraiment désignée comme l'arche d'alliance, donc celle qui contient non plus les tables de la loi, mais le verbe, la parole. Non plus les 10 paroles, mais le verbe, la parole. Et elle est le lieu maintenant de la présence divine. D'une certaine façon, elle est le vrai temple. Enfin, c'est Jésus qui est le temple, mais voilà, elle est l'arche d'alliance, le lieu de la présence divine sur la terre. Si bien que vont se produire alors au cours de cet épisode de la visitation toutes sortes de choses. Mais pour terminer le rapprochement avec la montée de l'arche par David, on voit que y a des grands cris qui sont poussés lors de l'arrivée de l'arche d'alliance et que Élisabeth poussa un grand cri. Pas par hasard non plus que c'est désigné de cette façon-là. Et puis l'arche de Yahvé resta chez Obed-Edom pendant 3 mois. Marie resta chez Élisabeth environ 3 mois. C'est vraiment stupéfiant, cette rencontre littéraire entre les deux passages. Rapprochement voulu par Luc, de façon littéraire, et qui nous disent bien que Marie est vraiment mère de Dieu. Ça permet de souligner aussi la dignité radicale de l'embryon. La dignité radicale de l'embryon. Le petit Jean-Baptiste dans le ventre d'Élisabeth à 6 mois, le petit Jésus dans le ventre de Marie à quelques jours, quelques semaines. Dignité radicale de l'embryon, puisque on nous dit que le Saint-Esprit est venu sur le petit Jean-Baptiste qui a tressailli d'allégresse dans le sein d'Élisabeth, qu'Élisabeth a été elle-même remplie du Saint-Esprit et qu'il s'est produit une effusion de l'Esprit. Mais d'où venait donc l'Esprit Saint si ce n'est du Verbe de Jésus qui est dans le sein de Marie? Dignité radicale de l'embryon qui est comme cryptée de façon subliminale dans ce récit de la visitation et qui est représentée de façon très crue dans certaines icônes orthodoxes que vous avez déjà vues probablement, où par transparence on nous montre le sein d'Élisabeth et le sein de Marie comme s'il était ouvert, contenant Jésus d'un côté et Jean-Baptiste de l'autre. Un autre aspect qu'on peut découvrir dans le texte de la visitation, c'est que Marie est modèle de la communion à l'Esprit-Saint. On peut faire un rapprochement cette fois-ci avec un autre et d'autres passages des écrits de saint Luc dans la deuxième partie de son œuvre, dans les Actes des Apôtres. Vous savez que Luc a écrit une œuvre en 2 parties, l'Évangile puis les Actes des Apôtres. Le raccord, c'est le récit de l'ascension de Jésus, hein, que vous avez à la fin du chapitre 24 de l'Évangile et au tout début du chapitre 1 des Actes des Apôtres. Et si on fait une relation entre la visitation d'une part et le récit de la Pentecôte d'autre part dans les Actes des Apôtres, on s'aperçoit qu'il y a aussi des choses assez parlantes. En effet, dans le récit de la Pentecôte, Jésus, ou juste avant la Pentecôte, Jésus va dire à ses disciples, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés dans peu de jours. Et 30 ans plus tôt, Marie entend de la bouche de l'ange Gabriel, l'Esprit Saint viendra sur toi. Jésus dit aux apôtres avant la Pentecôte, vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins, Actes chapitre 1, verset 8. 30 ans plus tôt, Marie avait entendu « La puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. » Dans les Actes, vous lisez qu'au jour de la Pentecôte, chapitre 2, Pierre, debout avec les 11, éleva la voix et leur adressa ces mots. « Homme de Judée, prêtez l'oreille à mes paroles, etc. » Et dans le récit de la visitation, vous lisez, Marie, en ces jours-là, Marie se leva et se rendit en hâte vers une région montagneuse. Voilà. l'esprit la pousse à sortir, un mot que le pape François aime bien, l'esprit la pousse à sortir, de même que l'Esprit Saint va pousser Pierre et les douze, puisque Judas a été remplacé par Matthias, et qu'à nouveau ils sont douze, l'Esprit Saint va pousser Pierre et les douze à sortir du Cénacle pour annoncer Jésus. L'Esprit Saint nous pousse à sortir pour annoncer, pour témoigner. On nous dit dans le récit des Actes, eux donc, l'ensemble des gens qui étaient là accueillant la parole se firent baptiser, ils s'ajoignirent ce jour-là environ 3000 âmes. Et 30 ans plus tôt, on nous a dit que, au fond, Marie entrant chez Zacharie provoque un tremblement de terre, puisque Élisabeth est remplie d'Esprit Saint, que l'enfant tressaille dans son sein. Et que dans les deux cas, il y a une œuvre du Saint-Esprit. Hein, les pères de l'Église prendront l'image du baptême intra-utérin de Jean-Baptiste en disant au fond... de Jean-Baptiste, c'est ça. Jean-Baptiste a été comme baptisé par Jésus dans le sein de sa mère. Voilà. Et ce qui était annoncé dans le cantique de son père Zacharie, hein, lorsque sa langue s'est déliée... et que lors de la circoncision, on lui demandait quel nom doit porter cet enfant. Sa langue s'est déliée à ce moment-là. Il a dit Jean, et il a loué Dieu avec ce cantique qu'on reprend dans la prière des Laudes tous les jours, hein, qu'on appelle le Benedictus. Et dans ce cantique, il dit clairement que cet enfant est rempli de l'Esprit Saint, d'être saint de sa mère. Voilà. Donc vous voyez, ces deux passages, Luc... chapitre 1, Annonciation, Visitation, et d'autre part, la Pentecôte annoncée et vécue, Actes chapitre 1 et chapitre 2, ces deux passages de la même œuvre de Saint-Luc se répondent au fond, et que dans les deux cas, il y a une sorte de manifestation de l'esprit de Pentecôte avec une sorte d'exercice des charismes au fond. Par exemple, la salutation de Marie. On ne nous dit pas quelle a été cette salutation, on n'en sait rien. C'était peut-être un petit bonjour, c'était peut-être plus que ça quand même. Ça reprenait peut-être la puissance de la salutation de l'ange Gabriel qui avait bouleversé Marie. Donc en cascade, lorsque Marie salue en entrant dans la maison de Zacharie et d'Élisabeth, elle reprend la puissance de la salutation de l'ange Gabriel. Mais en tout cas, cette salutation dont on ne sait rien, qui est une simple parole de politesse, mais aussi de charité, a donc très, très simple, très humble, très terre à terre, a vraiment été le vecteur pour que le Saint-Esprit vienne toucher Jean-Baptiste et Élisabeth. Et c'était peut-être, au fond, une démonstration d'esprit et de puissance, comme aurait dit Paul dans sa lettre aux Corinthiens. On pourrait aussi considérer que l'effusion de l'esprit qui se déploie dans le cœur et dans le corps d'Élisabeth, c'est aussi une guérison de la tristesse de sa stérilité, puisqu'elle dit que vraiment Dieu vient de la délivrer de ce qui faisait son humiliation devant les hommes. Elle est guérie de cette tristesse elle a été guérie de cette tristesse de la stérilité par cette naissance qui va s'accomplir. Le cri d'Élisabeth qui reconnaît en Marie la mère de Dieu, comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur? C'est vraiment, probablement, comme une parole de connaissance qu'elle reçoit et qu'elle exprime à voix haute. C'est vraiment un discernement charismatique. Et puis Marie qui va dire dans le Magnificat, toutes les générations me diront bienheureuse. D'une certaine façon, c'est une prophétie sur elle-même, où elle voit à l'avance ce qui va être dit d'elle et la louange que l'Église lui adressera tout au long des siècles. Bref, il y a des choses qui relèvent de l'exercice des charismes dans ce récit de la visitation et qui montre comment Marie est vraiment modèle de l'accueil et de la communion à l'Esprit Saint. En terminant maintenant, peut-être on pourrait se dire aussi que dans ce récit de la visitation, Marie est modèle de l'évangélisateur. Marie est modèle de l'évangélisateur. C'est-à-dire, au fond, elle porte Jésus dans la maison de Zacharie et d'Élisabeth. C'est tout. Pas de méthode sophistiquée, pas d'évangélisation bling-bling, comme on est un peu tenté de le faire aujourd'hui dans certains cas, mais des choses toutes simples, toutes humbles, de la vie courante, parce que Marie est habitée par Jésus. Ce qui nous fait comprendre que, au fond, la puissance de l'évangélisation se situe d'abord dans le consentement à la sanctification. Et que, précisément, toute notre recherche de méthodes performantes d'évangélisation, qui se situe donc dans la partie évangélisatrice, est à la fois intéressante, mais en même temps peut être un peu vaine. L'importance se situe dans le consentement à la sanctification. Marie est toute sainte. Marie est habitée de la présence du Verbe. Et parce qu'il y a en elle cette sainteté profonde, elle évangélise. C'est naturel, j'allais dire. Voilà. Et donc, il ne cesse de se produire dans son rayon d'action, de présence, des signes de l'action de Jésus qui l'habite. Voilà. Et Marie, en ce sens, est paradigme vraiment de l'évangélisateur, modèle de l'évangélisateur, à travers cette phrase toute simple qu'elle va dire, et où elle transmet la présence de Jésus. Donc le consentement qu'elle avait donné à l'ange Gabriel qui terminait le récit de l'Annonciation, ce consentement, oh, qu'il m'en soit fait selon ta parole, ce oui total, cette signature sur un chèque en blanc qu'elle a donné pour sa vie tout entière, ce oui total produit son fruit ensuite d'évangélisation dans la suite de ce qui se passe ici, chez sa cousine Élisabeth, mais on peut dire à travers les multiples présences que Marie nous dévoile, par exemple, c'est très frappant, dans les sanctuaires mariales, au fond, reconnus par l'Église, c'est très frappant de se dire qu'il y a sans cesse une mystérieuse alchimie qui fait que, dans ces lieux-là, au fond, Jésus se donne de façon puissante, par l'œuvre de l'Esprit Saint, mais parce que Marie aussi assure une présence ici, dans ce lieu-là. Et que ce n'est pas, effectivement, ce n'est pas sans importance, sans valeur, que de faire une démarche vers un sanctuaire marial, parce qu'il se passera certainement quelque chose, pas forcément de très extérieur et de très marquant dans le sens de ce qu'on aurait souhaité, mais de très intérieur, très très probablement. Vous avez ce petit texte du cardinal Danels que j'avais mis ici, qui est une homélie, hein, mais où il dit, voilà, quand vous évangélisez, soyez d'abord conscient que vous portez Jésus, assurez la base arrière, sanctifiez-vous, permettez à Jésus de vous habiter. Vous n'avez pas commis de gros péchés ? Pas grave. Allez vous confesser quand même, parce qu'il y a une puissance du Saint-Esprit dans le sacrement de réconciliation qui vous régénère. Assurez constamment cette sanctification qui va permettre à Jésus d'agir à travers vous pour se donner. Et dans cette homélie, il termine en disant, au fond, dans chaque homme, il y a un petit Jean-Baptiste qui attend, qui quelque part est en résonance et qui est en attente de la voix de Jésus. Et que si vraiment nous sommes habités par Jésus, il y a quelque chose qui se passera de l'ordre de l'intime, qui nous sera peut-être caché, mais qui, chez l'autre, sera le fruit du don du Saint-Esprit qui lui permet de progresser un peu plus. Voilà. C'est en ce sens-là, je reviens à la première lecture de la messe d'hier, qui était mimé par les enfants du cathé, le diadème, Dieu te part du diadème de la gloire de Dieu, voilà. C'est cette dignité de notre baptême de l'habitation du Saint-Esprit en nous, de la présence de Jésus en nous, notre dignité qui fait que Jésus agit pour évangéliser à travers nous. Enfin, terminons peut-être en soulignant que Marie est aussi réponse de foi, puisque non seulement elle a répondu à l'ange Gabriel par la foi, en disant qu'il m'advienne selon ta parole, sans savoir jusqu'où ça allait la conduire et quelles seraient les étapes, vraiment par la foi nue. Hein. Je vous assure, hein, la foi nue, c'est une sécurité. Aujourd'hui, on cherche vraiment à mettre beaucoup de confiture sur la tartine, mais il faut faire attention parce que c'est très sucré, ça peut créer des problèmes de santé spirituelle au bout d'un certain temps. Mais aujourd'hui, vraiment, on cherche beaucoup les signes, les sentiments, les impressions, les émotions, le ressenti. On est marqué par ces courants qui traversent la société. La foi, c'est la foi nue. Saint Jean de la Croix, fête le 14 décembre. Saint Jean de la Croix, je disais encore ça dans le bréviaire, je crois que c'est ce matin, dit « Mais ceux qui veulent des signes offensent notre Seigneur, parce que Dieu a donné sa parole de façon définitive en Jésus, et c'est comme s'il demandait au Père une seconde incarnation de Jésus. » Saint Jean de la Croix va jusqu'à dire ça. Donc la foi, c'est la foi nue. On ne ressent rien. On n'a pas de confiture sur la tartine. Et cependant, on avance. On s'aperçoit au long des années, en regardant en arrière, il faut avoir un rétroviseur. Oui, ça, c'est très, très important. Devant, on n'a pas claire vision. Mais si on a un rétroviseur, ça permet de voir que Dieu vraiment nous a gardés. Il était vraiment présent. Il y a aucun... Donc il est présent, c'est sûr. Je ne ressens rien, je ne vois rien, je n'entends rien, mais Jésus est présent, il est là. Et en ce sens, Marie est le modèle de la femme qui croit, et c'est ça qu'Élisabeth va mettre en perspective à propos de Marie. Bienheureuse, celle qui a cru. Elle ne dit pas « Bienheureuse, la mère de Dieu, bienheureuse es-tu à cause de ton charisme spécial ?» Bienheureuse es-tu à cause de ton Immaculée Conception. Elle lui dit, bienheureuse celle qui a cru, parce que tu crois, tu as adhéré par la foi, pleinement, totalement à la volonté de Dieu, et tu ne cesses d'y adhérer. Bienheureuse toi qui crois en l'accomplissement de ce qui a été dit de la part du Seigneur. Et ça, c'est vraiment la grande grâce que Marie vient faire passer en nous par osmose, au fond, quand nous veillons à fréquenter Marie à travers la récitation tranquille du chapelet en méditant les mystères, par osmose, il y a un certain nombre de richesses qui sont en Marie et qui passent en nous. Notamment cet aspect de foi nue et de foi forte, ferme. Marie nous affermit dans la foi, dans notre réponse de foi, et nous ne cessons de donner notre réponse à Dieu en toutes circonstances que la vie nous offre, qui ne sont pas celles que nous aurions choisies et qui sont le chemin que Dieu trace pour nous. Nous offrons une réponse de foi appuyée sur Marie, sur l'exemple de Marie et sur la présence de Marie. Voilà donc quelques réflexions pour un temps de prière. Maintenant, on a trois quarts d'heure, je crois, de silence et de méditation personnelle. Si vous voulez, pourquoi pas.